des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Jean Mauduit, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous parlez aujourd'hui d'une femme de lettres présentée par une femme de lettres, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Je voudrais vous parler effectivement d'un ouvrage qui a paru dans la collection Grande biographie de Flammarion. Une biographie, c'est le récit d'une vie et c'est quelqu'un qui le présente. Il se trouve que les deux partenaires sont exceptionnels puisque la biographe, c'est Huguette Bouchardeau, ancien ministre, personnalité marquante de la pensée politique, disons de gauche pour faire simple. Quant au modèle, quant au héros, plutôt l'héroïne, c'est Simone de Beauvoir. Ça donne un excellent résultat, cette rencontre. Je pourrais même dire que cette biographie est un modèle.
Elle est bonne dans le style biographie, Huguette Bouchardeau ?
Elle est tout à fait bonne parce qu'elle a deux grandes qualités. D'abord, elle arrive à maîtriser complètement sa documentation, une documentation remarquable, dont témoigne l'abondance des notes de fin de volume, une documentation minutieuse. Or, elle l'a parfaitement intégrée et elle s'exprime avec cette élégance supérieure de la culture, la vraie culture, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas étalage de cette documentation. Elle l'assimile, il n'y a pas d'érudition. L'érudition n'est pas voyante. Et puis la deuxième qualité, qui d'ailleurs procède un peu de la première, c'est qu'elle est parvenue à ressusciter le mouvement d'une vie et à travers cette vie d'une époque. Parce qu'encore une fois, une biographie, c'est un récit, c'est pas seulement un portrait. Et bien justement, ayant totalement assimilé son travail de documentaliste, elle nous embarque dans un récit qui est, je dois le dire, remarquable autant que passionnant. Dans ce récit, il y a tout de même un portrait, celui de l'héroïne, et le portrait lui aussi n'était pas tant. D'abord, tout ça est d'une grande honnêteté. Chacun sait que Huguette Bouchardeau est une femme engagée, elle l'a prouvé. Or, il n'y a jamais de filtre idéologique, encore moins politique, entre elle et son modèle. Et elle atteint une objectivité, en tout cas une honnêteté, qui n'est pas incompatible avec de la tendresse. Il faut avoir de la tendresse pour son modèle quand on fait une biographie. Et ça n'exclut pas non plus l'acuité du regard. C'est très incisif. C'est très très bien vu. Et puis surtout, je dirais, elle a su restituer la dimension fondamentale d'une vraie bio, c'est-à-dire la complexité. Personne n'est simple. Et la grande intellectuelle qu'était Simone de Beauvoir était moins simple que quiconque, je dirais. Mmh. C'est une femme de l'ultra-gauche qui est sortie d'une bourgeoisie étroite et qui en conserve, qu'on le veuille ou pas, une certaine rigidité au pluriel. C'est une grande bûcheuse normalienne qui s'oblige au plaisir, je dirais. On a l'impression, quand elle s'abandonne à ses passions, qu'elle le fait avec une espèce de méthode de bûcheuse, de poète, comme on disait à l'école. C'est une passionnée, mais qui veut tout maîtriser, qui veut maîtriser son emploi du temps, ses vacances, l'écriture, ses propres sentiments, les hommes qu'elle rencontre, Sartre excepté, et même le temps qui passe. Bon, naturellement, on n'arrive jamais à maîtriser le temps, mais la plus grande contradiction est dans sa vie sentimentale.
Alors comment est-ce que Huguette Bouchardeau traite des relations avec Jean-Paul Sartre qui ont été analysées par le petit trou de la serrure dernièrement ?
En ce qui la concerne, pas du tout. Non, bien sûr, elle prend appui sur des documents dont certains sont des documents très personnels, mais elle ne met jamais aucune complaisance à... Elle ne fait pas du tout ce qu'a fait le Nouvel Observateur. On peut avoir honte pour lui lorsqu'il a publié il y a quelques semaines, en première page s'il vous plaît, une photo dérobée de Simone de Beauvoir qu'on voit côté verso, nu, avec un bas mis et l'autre pas. Comme si, pardonnez-moi, mais le cul avait de l'importance pour évoquer un grand esprit. Non, elle ne fait pas du tout ça. Elle instruit avec un dossier, je vous l'ai dit, avec rigueur, précision, tendresse, et jamais, sans aucune concession. Elle ne tombe pas du tout dans ce piège qui est en effet souvent celui des biographies, et on a d'autant plus tendance à y tomber que le personnage est significatif. Non, par contre, elle évoque très bien les amours, mais avec respect, je dirais, les amours de Simone de Beauvoir, notamment l'amour tout à fait curieux, profond, essentiel, qui l'unit à Jean-Paul Sartre. Elle ne renoncera jamais à Sartre, elle y trouvera de bout en bout, sinon la source de ses pensées, du moins sa propre continuité, dans l'accord de leurs pensées. Ce qui n'empêche pas de connaître d'autres amours, qu'on pourrait appeler transversales, deux en particulier, avec un romancier américain, Nelson Algren, et puis avec Claude Lanzmann, l'auteur, comme on dit, pathétique de la Shoah, un grand film, vous savez. Bon, voilà le paradoxe, c'est une vie très réglée dans un dérèglement apparent. C'est une vie très normée dans une anomie revendiquée. Simplement, bon, elle ne s'applique pas les mêmes règles ni les mêmes normes que les gens ordinaires. Elle est porteuse, c'est peut-être ce qui est le plus frappant, d'une nouvelle morale individuelle qu'elle a voulu vivre pour elle-même. C'est une philosophe, bien qu'elle s'en défende, qui veut vraiment vivre sa philosophie. Une philosophie qu'on peut discuter, et personnellement, je la discute.
Est-ce que vous admirez l'œuvre littéraire, puisque vous faites une chronique littéraire aujourd'hui?
Diversement. Alors, pour être honnête, je n'ai pas tout lu, loin de là. J'ai lu, bien lu, deux ouvrages très caractéristiques. Le premier, ce sont Les Mandarins, qui lui ont valu le prix Goncourt.
En 1954.
Et le second, c'est Le Deuxième Sexe.
Pourquoi vous mettez dans cet ordre-là? Le Deuxième Sexe est paru en 1949, donc avant Les Mandarins, qui étaient en 1954.
Oui, mais j'ai envie de conclure par Le Deuxième Sexe, parce que je trouve que c'est l'heure importante. Mmh. Et je n'ai qu'admiration pour Le Deuxième Sexe, alors que je suis personnellement assez critique pour Les Mandarins. Ce n'est pas tout à fait le grand roman dont elle avait l'ambition. C'est trop long, c'est touffu, ça ne sacrifie pas aussi complètement qu'on pourrait le souhaiter à l'action, qui est quand même la moelle de toute œuvre romanesque. Un roman moderne, c'est une action avant tout. Bon, davantage qu'un roman, en fait, c'est un tableau de mœurs, c'est une longue chronique, celui d'une époque disparue, une époque anéantie, on peut même dire, c'est le temps de l'immédiate après-guerre, où, après tous nos malheurs, la société réapprenait à vivre dans une espèce d'hébétude joyeuse, je dirais une gueule de bois idéologique, parce qu'on avait tant espéré de la libération, la fin du nazisme, la justice, l'espoir retrouvé, la liberté de parole et d'écrire, et on s'aperçoit que le retour de la paix dont on avait rêvé n'est que celui du quotidien. Et alors c'est là que je voudrais insérer, je dirais, le reproche que je fais, sinon à Simone de Beauvoir, du moins à tout ce courant de pensée, et à Sartre en particulier, disons l'existentialisme. C'est que non seulement l'existentialisme a été un retour au quotidien, mais surtout c'est le grand désenchantement du monde. Le monde a été désenchanté une première fois avec la Révolution française, il a été réenchanté avec l'utopie de la démocratie, utopie dans son sens le plus noble, et l'existentialisme est un désenchantement total. C'est-à-dire que l'homme n'est rien d'autre que cet être contingent qui mourra, qui porte en lui sa propre mort. L'amour n'est que la rencontre de deux épidermes, on se croirait chez les cyniques, les philosophes cyniques de l'Antiquité, la rencontre de deux épidermes et de quelques sécrétions. Et il y a tout le temps cette volonté de ramener à la condition humaine dans ce qu'elle a de plus trivial. Ça, c'est le grand reproche que je fais. Oui. Alors, cela dit, le tableau de cette jeunesse désabusée, de sa fascination à l'époque pour le communisme, de ses remords, de ses préjugés, est intéressant en soi. Hein. Il permet de comprendre comment est née la pensée unique des intellectuels de gauche. Est-ce qu'on peut se demander s'il y a eu des intellectuels de droite pour la gauche, je ne sais pas. Qui coupe la société en deux, les bourgeois et les autres. Et alors là, il y a un retournement dialectique qui, moi, m'a toujours fasciné. C'est un tel est bourgeois, donc c'est un salaud. Parce que les bourgeois sont des salauds. Une pétition de principe qui va dominer pour longtemps les mœurs politiques et intellectuelles en France. Et Huguette Bouchardeau remarque avec beaucoup de justesse qu'il y a là un abus méthodologique et que Simone de Beauvoir, dans les papiers qu'elle écrit sur ce thème, sur la pensée de droite, pour les temps modernes, confond deux acceptions de la bourgeoisie, l'une d'ordre sociologique qui constate une posture socio-économique, une situation socio-économique, l'autre qui est politique et qui assimile un peu trop rapidement la bourgeoisie à la droite. Et c'est d'autant plus frappant que ces intellos qui vont prendre le pouvoir idéologique en France sont pour la plupart eux-mêmes des bourgeois. Alors, revenons au mandarin et allons vite, parce que je pense que le temps nous est compté. Le texte a mal vieilli. On ne peut pas s'empêcher de trouver agaçante cette pensée qui se retourne sur elle-même. L'auteur se voit et se regarde en train de se voir. Il se met lui-même en abîme, comme dans ces tableaux hollandais que vous connaissez bien. Et surtout, le lecteur d'aujourd'hui, j'ai fait un retour au passé finalement, en relisant les mandarins, le lecteur d'aujourd'hui a du mal à se passionner pour les émois intellectuels d'une génération engloutie. C'était brûlant, ça ne l'est plus. Il faisait du vent, il n'y en a plus, il n'y a plus de vent, c'est plus le même en tout cas. On a maintenant du mal à comprendre pourquoi tant de passion, tant d'émoi. C'est la rançon de toute littérature engagée.
Mais vous, Jean Mauduit, qui avez vécu cette époque de très près, puisque vous étiez aussi engagé,
oui, tout à fait.
Est-ce que ce n'est pas l'existentialisme qui a mal vieilli? Parce que moi, j'ai l'impression, rétrospectivement et avec ma jeunesse, que tout de même, il y avait une certaine utopie, justement, à cette génération et dans les années 60.
Il y avait
une certaine utopie, vous parlez de désenchantement.
Oui, mais pas celle-là. Oui, mais pas celle-là. Justement, l'existentialisme n'était pas porteur d'utopie. Sauf quand il prenait des inflexions politiques et qu'il se raccrochait, bon an mal an, au marxisme, il se raccrochait un peu à l'utopie marxisme, avec beaucoup de précautions oratoires, mais pour l'essentiel, il était ce retour permanent sur, je dirais, le malheur d'être un homme ou une femme.
Et vous trouvez que l'existentialisme est toujours l'idéologie prépondérante aujourd'hui ?
Non, non. L'existentialisme a enfanté pas mal de choses. C'est un des pères fondateurs de cette pensée unique qui n'est plus tout à fait unique, pour être clair, mais tout de même de cette façon permanente de se plaindre, de gémir, de critiquer. Je trouve que la vie politique, la vie sociale française sont placées précisément sous le signe de cette déréliction, de ce pessimisme aigri. Et moi, ça m'agace beaucoup. Justement, vous exposiez votre jeunesse que j'admire, mais si on était un peu jeune de temps en temps, un peu gai, un peu ouvert, un peu percutant, un peu dynamique, on ne l'est pas, on est aigre. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aigreur dans la vie politique et la vie intellectuelle française. Je ne généralise pas.
Oui. Et il y en avait beaucoup chez Simone de Beauvoir, trouvé.
Oh, il y avait un engagement. C'était pas une marrante. Et son engagement l'amenait à prendre des positions dures. Oui, quand elle attaque la droite, elle ne met pas de gants. Ça, je ne lui reproche pas du tout. C'est le jeu démocratique. Mais disons que sa littérature, son œuvre n'est pas du tout une partie de plaisir un dimanche au bord de l'eau. C'est pas du tout ça. Hein.
Effectivement.
Ça ne rigole pas. Ouais. Du tout. Jamais. C'est noir. C'est noir. Ce monde noir. Bon, vive l'utopie, vive l'imaginaire. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui a un grand besoin d'imaginaire qui se déporte, qui se pervertit peut-être à travers les jeux dans l'ordinateur, à travers les séries télévisées, que sais-je. Mais on voit bien qu'il y a un besoin d'imaginaire, un besoin d'enchantement. Il faut réenchanter le monde. Bah, c'est pas fait, Simone de Beauvoir.
Certes, mais est-ce que, par exemple, pour en venir au deuxième sexe, est-ce que c'est quand même pas un livre qui a été nécessaire dans l'histoire des relations hommes-femmes et dans l'histoire de la
Alors,
société ?
Alors là, je change complètement de discours. C'est un livre non seulement nécessaire, mais indispensable. Le deuxième sexe, dont vous connaissez aussi bien que moi les fondements, c'est que la condition féminine est une invention de la culture. La féminité, qui a longtemps été acceptée comme une condition naturelle des femmes, est en réalité une posture sociale, une socio-culturelle et socio-économique inventée par le système pour faire accepter la dépendance et la passivité des femmes devant l'homme. On a enveloppé les femmes de féminité pour leur faire oublier qu'elles étaient dans un état de dépendance sexuelle, économique et culturelle. Et Simone de Beauvoir consacre notamment des pages étourdissantes au complexe de castration qui repose sur cette exaltation indue et maintenant un peu ridicule, en tout cas un peu ridiculisée, tort ou à raison, de la virilité. Une virilité qui s'exprimait au mépris de l'individualité féminine, de la jouissance féminine, au mépris du sexe féminin, on peut même dire. D'ailleurs, toutes les plaisanteries, il n'y a pas si longtemps, sur les bonnes femmes, on en trouve encore qui traînent dans les coulisses des spectacles de deuxième ordre. ou dans les à côté du théâtre de feu, le théâtre de boulevard, on a longtemps rigolé des bonnes femmes, de leur faiblesse, de leur incapacité à l'abstraction, de leur etc., etc. Bon, et le deuxième texte, là, de Simone de Beauvoir, est une œuvre vengeresse, je dirais, une œuvre salutaire qui a nettoyé toute cette basse littérature. Elle a démontré qu'on a, pendant des décennies, des siècles, obligé les femmes à revendiquer ou à quémander ce qui leur était dû, ce qui aurait dû leur être reconnu. Et elle a une métaphore audacieuse. La femme se retrouvait, en réalité, vis-à-vis de l'homme comme le nègre devant le blanc. Alors on peut critiquer cette métaphore parce qu'il y a bien autre chose. Dans le racisme, on ne peut pas complètement assimiler le sexisme et le racisme, c'est évident. Mais il fallait peut-être avoir des mots aussi forts pour que la conscience s'opère. Et 20 ans après, parce que le deuxième sexe début des années 50...
C'est 1949, hein, le deuxième
sexe. Oui, c'est la fin des années 40 et le début des années 50. 20 ans après, 1970, avec les États généraux bourgeois, je dirais, il s'est trouvé que j'étais l'animateur, organisé par le journal Elle, et surtout l'insurrection du MLF, le MLF véritable héritier de Simone de Beauvoir. Il y a eu cette révolution culturelle, plus ou moins récupérée par le féminisme bourgeois, parce que tout ça s'est traduit dans des textes de loi tout à fait nécessaires et tout à fait justifiés, mais pour autant les mœurs n'ont pas totalement évolué. Il y a une évolution, qui fait d'ailleurs des dégâts, comme toujours. Quand on change la condition socio-culturelle d'un peuple, d'une population, il y a toujours des dégâts collatéraux. Et les hommes, et par conséquent les femmes, ont subi quelques dommages. Et les femmes elles-mêmes, en se réappropriant ou en s'appropriant des responsabilités qui leur étaient dues, ont été obligées de faire le sacrifice d'autres bénéfices dont elles disposaient. Mais on n'a jamais rien sans rien. Il y a toujours du troc en matière de société. Mais on peut dire que le deuxième sexe est quand même un grand passage historique du féminisme qui marque vraiment une étape. Jamais le féminisme bourgeois, que j'appelle bourgeois, disons traditionnel, celui des femmes qui essayaient de s'intégrer à la société humaine par des voies, je dirais, diplomatiques. Jamais il n'aurait réussi à percer. Quant au féminisme ouvrier, il est mort-né, il avait été étouffé par les syndicats. Donc il a fallu cette revendication du sexe au sens le plus, comment dirais-je, physiologique du mot. Le sexe, c'est le ventre de la femme et c'est tout ce qui découle de la condition féminine qui fait l'autonomie et l'individualité du sexe. Et on n'est plus complémentaires, l'homme et la femme. « Chérie, nous sommes complémentaires, tu fais la vaisselle et moi je vais au restaurant. » Non, on est différents simplement. Et l'égalité, ça ne se décrète pas. L'égalité, on ne peut qu'en poser les conditions, en obtenir les conditions, et c'est ce qu'ont essayé de faire les féministes qui ont marché à l'ombre de Simone de Beauvoir, à qui, sur ce point, on peut rendre hommage sans restriction.
Merci Jean Bouduy pour cette chronique témoignage à la fois. Si vous deviez lire un passage, vous liriez du Huguette Bouchardot ou vous liriez du Simone
non,
de Beauvoir ?
Non, je reviendrai à Simone de Beauvoir. Parce que Huguette Bouchardot, elle fait un travail de fond et bien que son style soit extrêmement agréable et son analyse percutante, pour le plaisir de l'oreille, il vaut mieux se rapporter au deuxième siècle. Alors voilà, pardon, je tombe tout de suite, je l'ai à peine cherché, sur une scène d'amour, mais qui est très significative de ce que l'existentialisme...
Il s'agit là d'un extrait des Mandarins.
« Es-tu même, dit-elle en posant la main sur le sexe gonflé. C'est vrai que tu m'aimes toujours. » Il ne se sentait pas le courage de provoquer un drame. Il était résigné à tous les aveux, et elle le savait. « C'est vrai. Tu es à moi ? Je suis à toi. Dis-moi que tu m'aimes, dis-le. Je t'aime. » Elle eut un long râle crédule. Il l'étreignit avec violence. Il étouffa sa bouche sous ses lèvres. Sans attendre, il entra en elle pour avoir plus vite fini. En elle, il faisait rouge, comme dans le studio trop rouge. Elle se mit à gémir et à crier des mots comme autrefois. Mais autrefois, l'amour d'Henri la protégeait. Ses cris, ses plaintes, ses rires, ses morsures étaient des offrandes sacrées. Aujourd'hui, il était couché sur une femme égarée qui disait des paroles obscènes et dont les griffes faisaient mal. Il avait horreur d'elle et de lui, la tête renversée, les yeux clos, les dents nues. Elle était si totalement donnée, si affreusement perdue, qu'il eut envie de la gifler pour la ramener sur terre, de lui dire « C'est toi, c'est moi, et nous faisons de l'amour, c'est tout ». Il lui semblait violer une morte ou une folle, et il n'arrivait pas à se délivrer de son plaisir. Quand enfin il se laissa retomber sur Paul, il entendit un gémissement triomphant. Elle murmura « Tu es heureux ?»« Bien sûr, je suis tellement heureuse, » dit-elle. Elle le regardait avec des yeux illuminés où brillaient des larmes. Il cacha contre son épaule ce visage à l'éclat insoutenable. « Les amandiers seront en fleurs, » se dit-il en fermant les yeux, « et il y aura des oranges sur les orangers. » Bon, c'est assez fort, hein, c'est formidablement écrit, mais en même temps, c'est le système, si je puis dire, existentialiste, mis à nu. C'est vraiment au summum de la sensation ou du sentiment, ce retrait cynique sur ce que cache justement le sentiment, ce que cache le plaisir, l'extase, c'est la démystification, c'est le rappel à l'ordre. C'est le rappel à l'ordre permanent que l'homme a à subir. Alors, il y a un autre passage, si vous permettez, qui illustre assez bien ses relations avec Sartre, parce que Les Mandarins, c'est aussi un roman à clé. J'en ai à peine évoqué l'action. Bon, c'est juste après la guerre, encore une fois, la désillusion des intellectuels, leur combat. Et c'est en ça que je critique un peu la texture du roman. Il y a ce tableau de mœurs, germano-pratin, je pourrais dire, et puis s'enchaîne là-dessus un grand roman d'amour qui est l'aventure personnelle de Simone de Beauvoir avec Algrine. D'ailleurs, elle le cache à peine, et l'histoire sait bien qu'Algrine a été furieux, d'ailleurs, de se voir à ce point démasqué, dénudé. Mais on voit aussi le personnage de Sartre, ce Sartre qu'elle n'a jamais quitté, qui a été pour elle à la fois un amant, un mari, un père, et sur la fin, un enfant, hein, le parcours complet, comme dans tout amour véritable. Et il y a ce passage, le personnage dans lequel de bons esprits, y compris Guette Bouchardeau, a cru reconnaître Sartre, et moi aussi, c'est un certain Robert. Non, ce n'est pas aujourd'hui que je connaîtrai ma mort. Ni aujourd'hui, ni aucun jour, je serai morte pour les autres, sans jamais m'être vue mourir. J'ai refermé les yeux, mais sans pouvoir me rendormir. Pourquoi la mort a-t-elle de nouveau traversé mes rêves? Elle rôde, je la sens qui rôde. Pourquoi? Je n'ai pas toujours su que je mourrais. Enfant, j'ai cru en Dieu. Une robe blanche et deux ailes lustrées m'attendaient dans les vestiaires du ciel. Je souhaitais crever les nuées. Je m'étendais sur mon édredon, les mains jointes, et je m'abandonnais aux délices de l'au-delà. Parfois, dans mon sommeil, je me disais « je suis morte », et ma voix vigilante me garantissait l'éternité. Le silence de la mort, c'est avec horreur que je l'ai découvert. Une sirène expirait au bord de la mer. Pour l'amour d'un jeune homme, elle avait renoncé à son âme immortelle, et il ne restait d'elle qu'un peu d'écume blanche, sans souvenir, sans voix. Je me disais, pour me rassurer, c'est un conte. Ce n'était pas un conte, c'est moi la sirène. Dieu est devenu une idée abstraite au fond du ciel, et un soir, je l'ai effacé. Je n'ai jamais regretté Dieu, il me volait la terre. Mais un jour, j'ai compris qu'en renonçant à lui, je m'étais condamné à mort. J'avais 15 ans. Dans l'appartement désert, j'ai crié. En reprenant mes sens, je me suis demandé « Comment les autres gens font-ils? Comment ferai-je? Est-ce que je vais vivre avec cette peur ?» Du moment où j'ai aimé Robert, je n'ai plus jamais eu peur de rien. Je n'avais qu'à prononcer son nom et j'étais en sécurité. Il travaille dans la pièce voisine, je peux me lever, ouvrir la porte, mais je reste couché. Je ne suis pas certaine qu'il n'entende pas lui aussi ce petit bruit rongeur. La terre craque sous nos pieds. Au-dessus de nos têtes, il y a un abîme et je ne sais plus qui nous sommes ni ce qui nous attend. C'est un passage que je trouve essentiel pour comprendre Simone de Beauvoir elle-même, ses relations avec Sartre, et en fond de décor toujours, cette pensée existentielle qui efface Dieu et qui se retrouve aux prises avec la mort qu'elle aveut. L'homme redevient mortel, il assume sa qualité de mortel, il veut y trouver sa grandeur, mais c'est une grandeur tellement cher payée.
Merci Jean Mauduit pour ces instants de littérature. Merci de nous avoir fait relire Simone de Beauvoir. Je signale à tous nos auditeurs qu'il existe désormais plusieurs chroniques de Jean Mauduit sur Canal Académie, sur différents auteurs féminins, puisque tel est le thème de vos chroniques. Jean Mauduit, à la prochaine.
À la prochaine. Au revoir. Merci Priscille, merci beaucoup.